Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis au micro de Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto, mais surtout la radio 100% francophone. Aujourd'hui, on va parler de la chaussure et plus précisément de la chaussure pour hommes. J'ai eu envie de m'intéresser à Emmanuel Farr, qui a ramené son savoir-faire ici à Toronto. Il est français d'origine, venu du sud du pays, Toulouse, pour ceux qui connaissent. Emmanuel Farr est installé à Toronto depuis 3 ans maintenant. C'est quelqu'un qui a toujours été très manuel depuis tout petit et je vous propose de découvrir son univers. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans nos studios. Donc pour préciser aux auditeurs, vous travaillez ce qu'on appelle la patine, mais j'ai d'abord envie que vous vous présentiez à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené ici à Toronto?
Alors, c'est assez simple. Depuis, d'abord, je pense que ça vient de l'historique par rapport à d'où je viens, ce que vos parents vous donnent, en fait. Donc, je viens d'une éducation assez bourgeoise. Mon père avait des costumes sur mesure, des chaussures sur mesure faites par des grands tailleurs à Paris. Et ma mère était antiquaire. On a vécu pendant 5 ans à Paris. Et donc, ma mère était antiquaire. Donc, tout ça a fait que, déjà, historiquement, dans mon passé, j'étais nourri par cette notion d'élégance et de style. Par la suite, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai fait 8 ans de... J'étais très mauvais à l'école et sur les études. Et en même temps, j'étais très doué pour tout ce qui était travaux manuels, donc le dessin. Après ça, j'ai fait 8 ans comme navigateur dans la Marine nationale, ce qui m'a permis, c'est ce que je considère comme mes années universitaires. C'est ce qui m'a amené à découvrir le monde et avoir une certaine ouverture d'esprit aussi. Je suis tombé malade suite à la quoi de cette maladie, je suis tombé en dépression et là il a fallu que je fasse un travail sur moi-même et je me suis rendu compte que je suis revenu à la base, ce qui est travailler avec mes mains. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis environ une dizaine d'années. Donc j'ai commencé en tant qu'indépendant en France sur ce qu'on appelle la patine. Alors j'ai trouvé un titre qui est un peu mieux en anglais, on dit patine artisan, mais il n'y a pas de traduction en français. Je l'ai extrapolé de ennoblisseur de soie et j'avais trouvé ce terme que je trouvais assez explicite, qui est ennoblisseur de cuir, c'est-à-dire que avec mon travail sur le cuir, on lui rend une certaine noblesse et une certaine beauté.
Alors justement, est-ce que vous pouvez rentrer dans ces détails-là et expliquer à nos auditeurs ce que c'est clairement que la patine?
Alors la patine, c'est assez simple. Originalement, ça a été développé par des grandes maisons telles que Berluti qui existent depuis plus d'un siècle. Alors moi, ce que je travaille à l'heure actuelle, avec des teintures qui sont des teintures spéciales pour cuir, et donc mon travail consiste à appliquer 8 à 12 couches de teinture sur le cuir pour lui donner un aspect unique et une certaine touche d'élégance.
Mais pourquoi la chaussure pour homme en particulier ?
Les hommes n'ont pas tant d'accessoires vestimentaires pour jouer avec. Et vous, les femmes, vous êtes les premières à le remarquer. Une belle paire de chaussures pour hommes, vous le remarquez de suite.
Tout de suite.
Voilà.
Et alors, en fait, pourquoi rester que sur l'homme? C'est-à-dire que moi, j'ai regardé un peu ce que vous faites. C'est vraiment, c'est très, très beau. D'ailleurs, on va mettre des photos un peu plus tard de vos réalisations sur les réseaux sociaux et y compris sur notre site internet pour que les auditeurs puissent avoir un aperçu de votre travail. Est-ce que vous faites de la patine sur d'autres objets, comme par exemple, je sais pas, un sofa ou bien des sacs à main, par exemple?
Tout est faisable. Tout est faisable à partir du moment où on a du cuir. Quand on y pense, c'est assez illimité parce que le cuir se retrouve partout, comme vous dites. Ça peut être sur des sofas, ça peut être l'intérieur d'une voiture. J'ai toujours en France, j'ai toujours mon vieux coupé 406 de chez Peugeot, designé par Pininfarina. J'ai jamais eu le temps de faire. J'ai du cuir très clair à l'intérieur. J'ai jamais eu le temps de le faire.
C'est quelque chose que vous avez envie de faire pour vous?
Tout mon travail commence d'abord pour moi. moi. Même les chaussures, je les fais d'abord pour moi parce que ça me permet après de voir comment elles vieillissent. Parce que ce qu'il faut, c'est pas un tableau, c'est pas quelque chose qu'on va accrocher dans son salon, c'est quelque chose qu'on va porter tous les jours. Donc il faut que je vois aussi comment la patine réagit avec le temps.
Mais ça prend combien de temps pour faire tout ça ?
Ça dépend du produit. Si c'est de la chaussure, à l'heure actuelle, ce que je fais le plus, je travaille dans la semaine sur une dizaine de chaussures en même temps. Sachant que il faut que je respecte des temps de séchage entre les différentes couches.
Mais ce que je voudrais savoir, c'est que vous faites du Made in France pour tout. Comment ça se passe ?
Non, je ne fais pas du Made in France. Alors, à l'heure actuelle, à travers la patine, on a deux types de services. On a le service patine qui peut être appliqué sur n'importe quel support cuir. Donc, la plupart du temps, les gens m'amènent des chaussures, mais j'ai déjà fait ça récemment, j'ai fait ça sur un sac Chanel. J'ai des décorateurs qui m'amènent des abat-jours en cuir à travailler. Le panel est assez grand. À l'heure actuelle, je commence une collaboration avec une compagnie de cordonnerie à New York, et c'est moi qui vais leur fournir le service patine. Et après, nous avons des chaussures. Donc moi, je suis incorporé avec Loading, qui est une société française. Donc nous avons une franchise ici à Toronto avec 3 magasins. Donc je fais les patines sur Loading, mais parce qu'on a cette demande de clientèle qui est beaucoup plus luxe, on a décidé de créer Maison Patina, qui est vraiment dédicacée aux produits de patine. Et là, on fait à l'heure actuelle des sacs, des porte-cartes. Et à la suite de quoi, j'étais en contact en France avec un fabricant de chaussures, une vieille compagnie familiale depuis 1889, de père en fils. Quelqu'un qui est, comme moi, un artisan. C'est plus un atelier qu'une usine. Sa capacité maximum est de 10 000 paires par an.
C'est un peu votre collaborateur, en fait.
C'est ça. Et avec lui, depuis le temps que je travaille sur les chaussures, j'avais déjà fait des brouillons et j'avais développé ma chaussure idéale masculine. Mon goût, mon style. Je me soucie pas du tout de ce qu'est la mode.
Alors moi, ce que je trouve particulier, parce que j'ai quand même été en atelier avec vous pour voir votre travail, c'est vraiment authentique. Est-ce qu'on peut vraiment finalement considérer ça comme de la haute couture ?
On est proche de la haute couture, puisque sur ma collection de chaussures que j'ai faite développer en France à l'heure actuelle, donc elle est faite à la montée, ce qu'on appelle montée finie main. Vous avez besoin d'utiliser des machines, bien sûr, mais ce sont des machines anciennes, c'est pas du Made in China. Et là-dessus, j'ai décidé d'aller sur un cuir qui est vierge, donc c'est comme une toile blanche pour moi, et qui est un produit entièrement avec un procédé végétal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de produits chimiques lors du tannage, et tout est fait en France. Ce qui était important pour moi aussi, d'une manière, non seulement il y a le côté luxe du Made in France, à contrario du Made in Italy ou d'autres qui sont un peu dévoyés, dans le sens où pour avoir du Made in Italy, maintenant on sait très bien que le produit peut être fini en Italie alors que la fabrication peut commencer en Inde ou en Chine. Bref, donc là on est vraiment sur un produit 100% français, et surtout ce que j'aime à dire, c'est une collaboration d'artisans, c'est-à-dire que le tanneur est un artisan et mon fabricant de chaussures est un artisan et moi je suis un artisan. Ce qui est intéressant pour notre clientèle, et effectivement quand vous dites c'est un côté luxe, c'est que vous pouvez me dire j'adore cette chaussure Manu, mais j'aimerais la voir en crocodile, j'aimerais la voir en l'air. On peut modifier la chaussure à la demande, et on est sur un procédé de demi-mesure. Ça veut dire que je prends la mesure du pied, alors la longueur reste toujours la même, c'est surtout la largeur qui différencie, mais on est effectivement très très proche d'un produit haut de gamme.
Moi, j'aimerais savoir par rapport à la concurrence, parce que finalement, des personnes qui travaillent de la même manière que vous, j'en connais pas du tout parce que c'est pas mon domaine, mais je pense que vous êtes un des seuls ici à Toronto à faire ce que vous faites ici, n'est-ce pas ?
Alors, je suis le seul, effectivement, en tant qu'en noblisseur de cuir, et je suis également le seul en magasin, c'était en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je ne connais aucun marque de chaussures, quelle qu'elle soit, que ce soit Berluti, Crockett & Jones, peu importe. Je n'en connais aucun qui ont quelqu'un comme moi en magasin. Ce n'est pas le cas en Europe.
Mais qu'est-ce qui fait la différence ici à Toronto ? Est-ce que c'est une plus-value d'être français et d'avoir un savoir-faire comme celui-ci en Amérique du Nord ?
Alors bien sûr, le côté français est important parce que en France, la différence primordiale par rapport à ici, c'est que malheureusement, l'artisanat n'est plus reconnu comme il était avant. C'est quelque chose, peut-être parce qu'on l'a depuis des siècles, c'est quelque chose qui est banal. D'ailleurs, les plus grands artisans en France, si on regarde bien, ils ne marchent pas avec des clients français, ils marchent avec des clients étrangers. Donc, ils arrivent à garder leur atelier en France, leur savoir-faire français, leurs ouvriers français, mais ils travaillent avec le Moyen-Orient, avec l'Asie, et il y en a même qui s'exportent. J'ai vu un documentaire sur une chaîne française où il y avait des artisans qui s'exportaient au Vietnam et qui exportent leur savoir-faire, ce qui est bien aussi, puisqu'on est dans un monde. Mais il est certain qu'ici, en tant que Français, oui, c'est un savoir-faire. C'est non seulement un savoir-faire, mais c'est aussi... vous avez une certaine considération et ils sont très admiratifs du côté manuel de la chose. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de telle production de masse qu'on retourne à quelque chose d'essentiel et plus encore, j'ai envie de dire, où on est sur une personnalisation du produit.
Est-ce que vous vous adaptez au style de votre client ?
Bien sûr, je suis. C'est la notion en anglais de bespoke. Le terme de bespoke, quand on parle d'un tailleur sur mesure ou d'un chausseur, vient du terme anglais où, lorsque vous aviez au 18e, les tailleurs, en fait, quand vous rentriez dans une boutique de tailleurs, vous n'aviez pas de veste. Vous aviez uniquement, vous choisissez votre tissu, et là, vous vous asseyez avec votre tailleur, et vous discutez sur ce que vous voulez. D'où le terme en anglais de bespoke. Et c'est exactement ce que je fais. La grosse différence et qui m'a beaucoup déstabilisé au début, en France, j'avais des clients qui savaient exactement ce qu'ils voulaient quand ils venaient me voir. J'avais pas besoin de discuter longtemps. Ici, il y a besoin d'un accompagnement, il faut les aider et je me rends compte que je fais plus un travail de personnel, de styliste personnel avec eux, en leur disant non, ça va pas avec... Et j'en ai d'autres, c'est assez amusant, qui vont m'amener leurs pantalons de costume pour me dire bon, qu'est-ce que tu peux me faire avec ça ou non, bien sûr, j'ai besoin, je suis un peu comme un docteur où j'ai besoin de m'asseoir et de discuter sur ce qu'on va faire ensemble.
Est-ce que vous pouvez comparer votre travail, est-ce que vous pouvez juger votre travail et celui de, par exemple, de vos confrères un peu partout en France, par exemple, ou ceux que vous connaissez ici? Quel est votre modèle professionnel, on va dire?
Par exemple, il y a quelqu'un ici qui fait ça, qui est canadien. La différence est énorme dans le sens où il est très inspiré par tout ce qui est Marvel caractère, donc c'est des couleurs très criardes.
Quels sont vos modèles professionnels, on va dire?
Alors, au tout début, quand j'ai commencé, moi, j'ai contacté un des plus vieux sur Paris qui s'appelle Paulus Bolten, qui est d'origine hollandaise, qui fait un travail magnifique, qui est très inspiré par le baroque français ou italien. Et je crois que c'était ma première ou ma deuxième patine que j'avais fait comme ça à la maison. Et je lui ai envoyé, je lui ai dit, écoutez, en tant que professionnel, je voudrais avoir votre avis, etc. Et ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, c'est super intéressant ce que tu fais, parce que je sens qu'il y a une signature personnelle. Enfin, quelqu'un qui ne copie pas ce qui existe déjà. Et je crois que la différence avec la concurrence, par rapport aux gens qui font la même chose, elle est là, quoi. Elle est là et elle est aussi dans le respect du travail. Si je facture ce prix-là, c'est parce que je sais les heures que j'ai passées dessus et je vais mettre 8 à 12 couches de teinture. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner, il y a à peu près un mois de ça, je travaille beaucoup par correspondance avec les États-Unis notamment. J'ai un client qui me contacte, qui me dit, voilà, j'ai acheté cette paire patinée venant d'Espagne. Regardez ce qui se passe. En fait, au pli des anses, c'est-à-dire là où, où la chaussure bouge, là où on a les plis dans la chaussure, toute la teinture était partie.
Ça s'est écaillé.
Ça s'est écaillé. Ce qui m'intéressait beaucoup, parce que tous mes concurrents me suivent, et respectivement, j'ai envie de dire, bien que j'aime pas trop regarder ce que font les autres, parce que ça fausse après mon idée de travailler. Bref, c'est un gars qui est en Espagne, qui est très doué à ce qu'il fait. Mais lorsque j'ai eu la chaussure, d'abord, il y a intrinsèquement la qualité du cuir qui est utilisé dessus. Et deuxièmement, je me suis rendu compte qu'en fait, il appliquait qu'une couche de teinture.
Mais en fait, c'est quoi la durée de vie, on va dire, d'une patine ?
C'est à partir du moment où la chaussure est de qualité, que vous en prenez soin.
Parce que là, vous nous avez donné un exemple d'un client qui a une chaussure de marque, visiblement, et qui s'est retrouvé quelques temps après avec sa patine complètement écaillée. Ouais. Quelle est la différence avec ce que vous faites, vous, et combien de temps on peut garder une patine ?
À partir du moment où on la nourrit, on applique les bons produits, de la crème, etc., on peut j'ai envie de dire, on peut la garder à vie. Moi, j'ai des chaussures patinées qui datent. J'ai une vieille paire de Yves Saint Laurent qui date des années 80. Donc, c'est tout dépend de. J'ai envie de vous dire, c'est comme votre voiture, quoi. Tout dépend de ce que vous en faites, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Il faut le cuir est vivant. C'est ce que je me tue à répéter à tous mes clients quand je leur vends les produits. Je leur dis, voilà, il faut que vous appliquiez les meilleurs produits sur votre cuir. Le cuir respire, c'est comme votre peau. Vous nettoyez votre peau, ben c'est la même chose. Il faut nettoyer vos chaussures, il faut les crémer, il faut les lustrer. C'est exactement c'est très proche de l'entretien de notre propre peau.
Tout à l'heure, vous avez parlé de signature. Mmh. Et les auditeurs ne peuvent pas vous voir, évidemment. Mmh. Moi, je sais que vous avez quand même du style. Vous travaillez de manière... Non, mais c'est vrai, quand même, il faut le dire. Dans votre travail, vous avez tous les jours du style. Dans votre manière de vous habiller, vous avez un style, on va dire, un petit peu, si je me trompe, vous m'arrêtez, un peu inspiré des années 50, comme ça, un style très dandy.
70,
on n'est pas loin de Gainsbourg. Alors j'ai envie de savoir quelles sont vos inspirations.
Elles sont très gainsbourgiennes, effectivement.
J'en étais sûre.
Elles sont très gainsbourgiennes. D'ailleurs, j'avais rencontré qui était venu à Toronto, et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais j'avais rencontré Ross Callahan, qui est un photographe qui a déjà édité deux livres qui s'appellent I Am a Dandy. C'est une manière pour moi. Alors, la raison pour laquelle, si on va sur mon Instagram, qui est maison_patina, au tout début, quand on a commencé l'Instagram, on ne mettait que les chaussures. Et au fur et à mesure, quand on a discuté avec l'opération manager, on a dit non, il faut aussi qu'on mette, qu'on voit l'homme, l'artiste derrière l'artisanat. Et au début, j'étais un peu sceptique et tout. Hein, je sais pas si ça, j'avais pas trop envie de me mettre en valeur. Et en fait, je me rends compte que l'intérêt, c'est aussi, je peux faire la plus belle paire de chaussures, vous la posez sur la table, mais ça va pas parler aux hommes dans le sens où ah oui, d'accord, mais avec quoi je peux mettre ça ? Et le fait de mettre mes tenues avec à chaque fois des chaussures patinées, les gens comprennent, ah oui, par exemple, oui, effectivement, je peux porter une paire de chaussures vertes ou une paire de chaussures bleues. Ah oui, je peux l'accorder comme ça. Moi aussi, j'ai un costume qui pourrait aller avec ça. Donc, c'était plus dans ce... Après, pour finaliser avec mon style, effectivement, j'aime bien mixer une pièce vintage... Et trouver la balance entre quelque chose de classique et rock'n'roll.
De toute façon, vous êtes le créateur, donc vous êtes forcément la personne la mieux placée pour porter vos créations. Maintenant, moi, je me demande, en fait, quand je vois tout ça et que j'ai vu ce que vous avez fait, vous êtes capable de travailler sur... Pourquoi pas faire une collection féminine ? Ça fait partie de vos projets ?
Ça fait partie de mes projets. Et là-dessus, il faut que je réfléchisse, parce que d'abord, c'est un marché différent. C'est un marché qui est très concurrentiel. Donc, définitivement, je ne ferai pas de talons, parce qu'il y a déjà des gens très doués, tels que Louboutin ou Manolo Blahnik. Je ne veux pas faire de talons. Et puis, en plus, le travail de patine sur le talon ne s'y prête pas, parce que je n'ai pas assez de matière. Donc, ce que je pense décliner, tout ce qui est bottines, telles que le Chelsea, le Jodhpur, j'aime beaucoup les bottines et je suis en train de dessiner. Déjà, ma bottine pour homme, là, le Chelsea que j'ai récemment posté, là où d'ailleurs j'ai un succès fou avec, est déjà assez sexy dans le sens où il y a des courbes, il y a une forme que j'avais en tête. Et c'est d'ailleurs jusqu'à présent la remarque de tous mes clients qui me disent « Manu, what a sexy shoes !» Mes clients sont comme finalement vous les femmes quand vous portez une belle paire de talons, et ils se sentent sexy avec mes chaussures. Et je crois que c'est le point le plus important. Et donc j'y réfléchis.
Mais justement, moi j'ai envie de savoir c'est quoi les retours qu'on vous donne en général quand les clients reçoivent la chaussure terminée. C'est quoi la première impression qu'ils ont ?
Ma première satisfaction, c'est le regard de mon client quand il voit sa paire de chaussures, quand il l'ouvre. J'ai le sentiment de... Ils sont comme des gosses devant un sapin de Noël, quoi.
Vous avez l'impression que vos clients, qui sont en général en plus des clients, on va dire, oui, fortunés, on va pas se mentir, ce sont des hommes d'affaires, etc. Et vous les voyez redevenir un peu à l'état d'enfant.
Oui, tout à fait. Ils ont une réaction. Ce que j'aime bien faire... Je leur laisse la boîte devant, sur la table, et je leur dis « ouvrez-la ». Je leur présente même pas la chaussure. Comme ça, ils ont cette sensation, le plaisir d'ouvrir comme si c'était un cadeau, quoi.
Mais alors, la Fashion Week, les défilés, tout ça, pourquoi ça vous intéresse pas ? C'est quelque chose vraiment qui pourrait contribuer au lancement, international de votre carrière.
Je travaille ici avec un Glenn Baxter, qui est en charge depuis l'année dernière de la Toronto Fashion Week. Donc en fait, ici sur Toronto, il y a deux événements pour hommes. Il y a la Tom Fashion Week et il y a la Toronto Fashion Week. Donc la Toronto Fashion Week était anciennement propriété d'un grand groupe qui a également la London Fashion Week, New York Fashion Week, etc. Il a revendu les droits depuis l'année dernière à Glenn, qui lui est un ancien journaliste de Fashion TV, donc qui a parcouru le monde pendant 10 ans, qui est très bien introduit... dans le monde de la mode. Et la première qu'il a faite au mois de septembre dernier, il avait comme invité Jean-Paul Gaultier. Donc il est en train de créer quelque chose de gros sur Toronto. Ça se passe uniquement à Yorkville, là où je travaille, et ils sont partenaires avec Yorkville Village. Donc ça se passe au milieu du Yorkville Village, ce qu'on peut faire plusieurs ateliers, il y a des sections de pop-up, enfin bref. Et on est en train de travailler en ce moment avec je vais y participer à la prochaine, plus sur des démonstrations tous les jours en différents endroits. Il veut me mettre sur le podium avec des flammes.
Ça va être presque... Mais c'est génial.
Voilà, ça va presque être à la Johnny Hallyday, bref. Et en parallèle, j'ai envie de faire un défilé avec une collection pour hommes. Maintenant, ça prend du temps, il y a de l'investissement, mais le plus important, c'est de trouver le partenaire idéal. Parce que si on va dans un concept de défilé, il faut des costumes. Les vrais tailleurs sur mesure aujourd'hui à Toronto, il n'y en a pas 14 000. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle demi-mesure, made to measure, mais le vrai artisan comme moi qui fait tout à la main de A à Z, il y en a très peu. Donc je suis en contact avec quelqu'un qui travaillait précédemment pendant une dizaine d'années pour Holten Renfrew, et qui est, je m'entends bien, après j'en ai également un autre avec qui ça m'intéresserait de travailler aussi, donc j'y réfléchis, voilà.
Je suis sûre que ça donne déjà envie à des auditeurs d'en savoir plus sur vous. Alors justement, si on veut avoir des informations complémentaires, si on a envie de voir votre travail ou si on a envie de vous retrouver, comment on fait ?
Alors, je vous invite d'abord, parce que comme c'est très visuel, on est à la radio, donc mon Instagram, c'est donc maison underscore patina. Donc là, je poste tous les jours, indifféremment, vous allez voir des photos de moi en costume, etc., avec les patines et bien sûr les patines. Après, c'est simple, je me trouve, vous pouvez me rendre visite sous l'enseigne Loading, 133 Avenue Rhodes, juste en face Soto Soto, pour ceux qui connaissent le restaurant italien. Vous pouvez également me contacter directement sur mon email qui est sur mon Instagram également.
Un dernier mot pour les auditeurs.
Écoutez, je pense que si ça intéresse particulièrement, mais ça peut intéresser hommes et femmes, venez me voir, je suis toujours disponible et j'adore discuter, quel que soit d'ailleurs, je fais salon également.
Merci beaucoup Emmanuel Farr d'avoir été avec nous sur les ondes de Choc FM 105.1.
Avec plaisir, bonne journée.
Quant à vous, chers auditeurs, on reste ensemble, on continue tout de suite en musique, vous me donnez envie de passer du Gainsbourg, mais je vais laisser la surprise aux auditeurs.